Cette émission est une présentation Intersport Productions.
94.5 Unique FM, les micros sont ouverts.
Bienvenue dans le vestiaire.
Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe.
Victoire hier pour les Sénateurs. Une grosse victoire, pas nécessairement. Du bon jeu, pas nécessairement. Rien de convaincant, mais tout de même, c'est le 2 points qui est important. Alors, on va dire, youpi!
Voici notre promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire.
Au 94.5, voici Nicolas Saint-Pierre.
Pas youpi la mascotte, parce qu'apparemment, c'est une des pires dans la Ligue nationale de hockey. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais non, on va parler positivement. Ce qui est important, c'est le 2 points. Reste que, pas nécessairement un match qui va passer à l'histoire. Est-ce qu'il y a encore une fois des questionnements? Certainement, dans l'univers des Sénateurs, comment on va répondre à ces questionnements? Ben, c'est pas à moi de répondre à cette question. Alors, on a quand même plusieurs sujets aujourd'hui avec plein d'invités. Renaud Lavoie, Jacques Martin, Marc Schreiber, Patrick Grandmaître, Vincent Tremblay. Mesdames, messieurs, c'est jeudi! Bienvenue dans votre vestiaire à part de ça. Merci d'être là. Merci de nous accompagner jusqu'à 19h. On est disponible en balado-diffusion. Plusieurs plateformes également sur Twitter, sur Facebook. Parlez-nous comme vous voulez. 613-697-22... Non, 613-697-2292. Oui, c'est ça, texto. Alors, on est preneurs également, puis on vous dit un beau bonjour. J'espère que vos emplettes de Noël vont bien, parce qu'avoir le trafic en ce moment dans la capitale, j'imagine qu'il y a bien du monde qui font du magasinage, parce que c'est hors de l'ordinaire à cette heure-ci. Alors, je vous dis prudence, patience et bon magasinage. Le temps des fêtes arrive, c'est le fun. Salut à tous et à toutes qui ont pris le soin de bien décorer leur maison, leur chaumière. Je pense qu'on va faire la promotion de ça. Je pense que la ville au complet devrait être illuminée. Pour le temps des fêtes, ça serait Tigidou Light Light.
Bonne chance.
Bonne chance. Bonsoir à vous, Mick Lafleur.
Bonsoir, M. Saint-Pierre.
Ah, ça va?
Ça va très bien.
Bien sûr. On a plein d'invités, puis j'ai hâte de parler avec tous nos invités, de Vincent Tremblay, de boxe, Patrick Grandmaître, évidemment, des GGs, programme masculin. Marc Schreiber va nous parler de football. Imagine-toi, à Buffalo, on annonce 6 pieds de neige.
C'est ça.
6 pieds de neige!
Un petit peu trop pour un match de football. Là.
Alors, les Browns contre les Bills, ça a été déménagé à Détroit. C'est exotique, Détroit. Je sens que j'aurais déménagé ça dans le sud un peu, je sais pas, mais... 6 pieds de neige. Jacques Martin, également, Renaud Lavoine vont nous parler de hockey. Je te pose la question, t'as vécu, t'as vu, t'as entendu le match d'hier. T'as aimé?
Non. J'ai pas
Puis, du non, non,
tout.
Mais tu ben, m'as dit que je suis négatif, alors non, je vais te laisser parler.
Ben écoute, je suis dans le même point de vue que toi. Beaucoup trop de pénalités inutiles.
Un mauvais 4 de 8 au total, 4 pour bâton élevé.
Ouais, 4 ou 5, là, ça qu'Alain a dit hier. Mauvais changement d'effectif en plein territoire central. Je sais pas, c'est décousu pour les Sénateurs. Je ne comprends pas cette équipe-là. Pourtant, ils sont supposés être bons. On se ramasse avec une fiche de 6-9-1.
Ne faisons pas les marchands de malheur. Gardons ça positif.
Oui, c'est sûr. Mais on a beaucoup de points positifs. On l'a dit tantôt avec Michel Picard.
Il y en a beaucoup.
Le désavantage numérique, par exemple.
Il y a des choses sur lesquelles on doit bâtir. Excellent. Puis d'ailleurs, puisque je vais continuer dans cette même veine-là, après une chose, c'est qu'on reprochait à ce club-là de ne pas bloquer ses tirs. Et bien hier, on a eu un
Jake
club
Sanderson.
Qui s'est sacrifié. 19 tirs au total ont été bloqués. C'est 5 pour Jake Sanderson.
Oui.
Positif. Jake Sanderson, 24-55, aussi bien dire 25 minutes de temps de glace. Lui qui a fait 2 points encore une fois. Avec Pinto, d'ailleurs, est dans la course pour la meilleure recrue.
Mm-hmm.
On s'entend, ça va bien. C'est Michelli, si je ne me trompe pas, avec l'Arizona. J'ai son nom, là, mais en tout cas, c'est...
On a un joueur du Kraken aussi qui est dans la course.
Oui, oui, non, on s'entend, là, mais le premier à 10 points, ouais. La recrue de l'Arizona. Alors, Pinto, puis même lui, Sanderson, écoutez, il répond à bien des questions. Puis là, j'espère que quand... Chabot va revenir, on va arrêter de surjouer pour donner
tout
un petit peu plus de responsabilité parce que Sanderson crie présent en ce moment. Puis ça, c'est bon. C'est hyper bon. Forsberg, pourcentage de 967.
Oui, il était sensationnel
hier.
C'est
ce qu'on veut d'un gardien numéro 1. Ça, c'est positif.
Mais je trouve qu'on parle pas assez de Austin Watson, lui, qui a marqué le premier but hier soir.
Austin Watson.
Lui, je pense que là, il va aller sur une lancée de confiance maintenant.
J'espère, parce que je le sentais un peu éteint, détaché. Puis pas de son jeu, mais les 2 combats auxquels il a pris part. Dernièrement,
ouais,
je vous dis pas. Mais il semblait... Puis écoutez bien, là, je respecte. Puis mm-hmm. au plus grand point, là, le travail qu'il fait. Mais je le sentais un peu éteint. Puis c'est pas une bonne affaire. Est-ce qu'il se passe quelque chose pour lui? Je sais pas, mais je me promets de le questionner à un moment donné. C'est une question de timing dans ce temps-là. Je veux pas manger un coup de poing sur la gueule. Non, 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 mais sérieusement, content, puis c'est vrai. Puis tu le sentais après le match.
Oui, oui, dans les commentaires, dans les échos de vestiaire, là.
Oh, oui, puis ça fait du bien, puis tant mieux. Puis ça aussi, c'est du positif à part de ça. Que Chuck a marqué, The Brink 4 qui a marqué.
Oui, The Brink 4, là. Mathieu Joseph, tout un jeu, hein. Il l'a vu, l'option de
oui,
passe.
Oui, tout à fait. Puis ça en était un, ça, qui devait commencer à ouais. produire un petit peu plus, puis qui s'est responsabilisé pour amener ça, pas caché.
Il y a eu deux occasions dans en première ouais. période, deux échappées, malheureusement.
Non, non, disons bravo, bravo, bravo. Mais reste que. Puis, putain, on va terminer sur le côté positif. Je vous rappelle qu'à date d'aujourd'hui, l'équipe qui a joué maintenant 10 matchs chez elle, fiche de 5-5-0. Mm-hmm. On a ramené ça à 500, ça, c'était hyper important. Mais à la maison, les Sénateurs, au moment où on se parle, une moyenne de 3,9 buts par rencontre, c'est l'équipe avec le plus de points générés, le plus de buts générés à domicile de toute la Ligue nationale de hockey.
Écoute, je pense que le match contre les Golden Knights de Vegas nous a aidés dans la moyenne.
Non, mais c'est correct. Non, mais regarde, le chiffre est bon. Le chiffre est bon parce que ça, c'est une chose qu'on devait également, qu'on devait adresser puis qu'on a réglé cette année. L'offensive qui est beaucoup plus piquante mm-hmm. que les années précédentes. Là, si on pourrait régler l'affaire de défensif, ben là, ça serait peut-être mieux. Mais ça, il n'y a rien de parfait. Hier, 4-1, regarde, on a parlé de défensive, seulement un but. Number one, excellent, correct. Pas de problème. Quelqu'un doit compenser quelque part
Forsberg
pour une expérience à la ligne.
Forsberg a livré la marchandise. Heureusement qu'il y avait lui devant le filet.
Les deux missions qu'on doit se donner avec une ligne bleue peut-être amincie puis peut-être moins efficace que les autres équipes de pointe, grosse performance des gardiens puis des tirs bloqués. Pour moi, ça vient de là. Alors, hier, on a fait ça. Puis regardez ce qui est arrivé. Alors, on va souhaiter que ça va se passer la même chose ce samedi. Parce que si le défi de jeudi était, on va dire, moindre, celui de samedi, on va vous dire une affaire, ben là, c'est à prendre avec des pincettes. Ouf. Le club qui traverse une séquence de 10 victoires en ce moment, on va le dire, mm-hmm. à un moment donné, ça va débarquer, pas de trouble. Mais cette équipe-là est bonne autant à l'offensive qu'à la défensive. Il n'y a pas de faille. Puis elle a le vent dans les voiles. Elle est belle à voir, l'équipe des Devils, en ce moment. Alors, j'espère qu'on va amener ça à un haut niveau. Je parle du jeu des Sénateurs parce que, diantre de Batatlan, si on joue de cette façon-là hier, samedi,
ouf, un massacre.
Ça pourrait faire mal. Ça pourrait faire mal. Je reste ça comme ça. Je veux entendre, ou on va entendre, DJ Smith en point de presse hier, résumé, comment elle a trouvé l'effort des siens. Écoutons DJ.
Too much work. You know, clearly the high sticking penalties, we got to do some about. I mean, it's a double minor bunch the other night. But in saying that, the penalty kill did what they had to do.
You comment a little bit on Forsberg. There's a sequence there in the second period, back-to-back saves. I think it was Cousins and Paterka, back-to-back, and just to get those types of saves in that moment at 2-1.
Yeah, that's the Forsy we know. That's the Forsy. When he's playing like that, he's tough to beat.
And just a thought of, at the end of the game there, Jake Sanderson with the block, had a couple of assists as well. Just a thought on his overall game, because obviously he's eating minutes that you're probably not used to giving against a 20-year-old.
Yeah, and he's playing against that top line that's real. They make plays, 72-89, 53. The way Jake played tonight, it's just a glimpse into the future of him playing against everyone's top lines. And with the game on the line, he's blocking shots. I mean, it's a heck of an effort.
Do you think that first 30 minutes with them having seven power plays, you kind of had to grind that out?
Yeah, for sure. I mean, it's tough. Guys don't get in the game, right? And especially your offensive guys don't get in the game. And then all of a sudden you have a power play, and they're trying to do too much. And, you know, I think that's what you saw, but again, you know, at the penalty killers, we relied on them tonight, and that's how we win.
Just have Watson contributed.
Yeah, it was great. I thought that line was really good. Obviously, Gambrell had great legs coming in, him, Parker, and Waddy, and then I thought Waddy did a real nice job on a penalty kill, looked comfortable tonight, and clearly, you know, he hadn't scored, and then you score, you just feel better.
Matthew Joseph.
For sure. I thought he was great. I thought he was all over pucks. He made a great play to DeBrincat. I thought he forechecked. I thought he really grinded tonight.
What's the conversation you have with a guy like Hasselbeck? You've been really happy with him this season, but you make that switch.
Well, it's just you're not going to be out very long. I mean, we know that he's a big part of this organization going forward. I just think he's played every game. It's been a lot. Gambrell had played Buffalo lots before and knew how they played. I think he's really knows the system. And our game tonight was based on our neutral zone defending their rush. And, you know, we just went with that as Gamby's a real good skater. I don't foresee Casty being out very long. Yeah, I thought, you know what, the 26 and 25 power and Dahlin are really good. I mean, you look at them on the point, the way they hold on to pucks, but the way we grinded defensively, got in front of pucks, took care of the puck, it was a really good effort.
Gambrell qui a pris la place de Kastelic, faites-vous en pas, c'est pas pour longtemps. On envoie des messages, mais également le fait que Kastelic avait pris part à tous les matchs. Il faut donner une place à un moment donné à Gambrell également. Alors, il va revenir à un moment donné. Des joueurs qui sont démarqués, Sanderson a fait le travail, Forsberg a fait le travail. Ce qui est plate, par exemple, c'est que ça a été... Il dit qu'on a travaillé trop fort. Puis c'est là qu'on veut en venir, c'est que les joueurs, l'équipe semble s'être mis les pieds dans les plats. On s'en est sorti à bon compte. Mais des erreurs comme ça peuvent être coûteuses contre des équipes de pointe, puis c'est sans lever le nez sur les sables. Mais si on fait ce genre d'erreur-là, ce genre de gaffe-là contre les Devils samedi, ben oubliez ça. En première période, des pénalités, en voulez-vous, en v'là. Ça venait en vrac. Puis là, ben t'as des joueurs qui jouent pas à court d'un homme, se retrouvent qui perdent leur rythme. C'est difficile de les insérer. Puis c'est là que ça a été difficile de mettre le rythme à un moment donné. Les explications de DJ Smith, qui est en congé comme son équipe aujourd'hui. On va les retrouver sur la DAS demain en préparation du match prochain au hockey Véronique Lossière des Sénateurs à 13h samedi contre les Devils. On va rejoindre l'ami Renaud Lavoie, notre ami Renaud Lavoie qui nous attend en bout de ligne. Renaud, comment vas-tu?
Ça va très bien, toi, Nicolas.
Ça va super bien. Le Canadien qui a un rendez-vous avec les Blue Jackets de Columbus. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais t'entendre. Petite, pas une rumeur, mais un observateur de Ligue nationale de hockey, tout comme toi, ouais. Chris Johnson, qui a parlé d'Eric Carlson avec le Canadien de Montréal, possiblement.
C'était pas avec les Sénateurs d'Ottawa?
Oui, ils ont sorti aussi le Canadien. Mais oui, mais je voulais faire un avec les Sénateurs, là, mais...
Non.
Je vais te demander avec les Canadiens, oublie ça. Parfait, on vient de régler ça.
Ben, oublie ça. Comment je te dirais ça? C'est sûr qu'Eric, c'est un bon défenseur. Puis je pense qu'Eric, en plus, secrètement, aimerait ça jouer pour le Canadien. Parce que j'ai déjà une petite conversation vite faite avec lui. Puis j'avais dit, hey, un jour, tu vas peut-être jouer avec nous autres. Puis il a dit, ah, on va faire un petit sourire. On l'a dit. C'est bon.
Un petit sourire à style Eric Carlson, ça veut dire bien des choses.
Oui, exact. Mais écoute, c'est juste parce que l'idée n'est pas mauvaise, OK? Mais aujourd'hui, c'est pas le moment. Ouais. Dans le fond, là, permets-moi, si tu veux, un parallèle. Christopher Letang. Christopher Letang, si les Canadiens avaient senti où se disait on est rendu prêt à faire un push pour aller chercher une Coupe Stanley, je pense que Christopher Letang porterait déjà l'uniforme des Canadiens.
Ouais.
Tu comprends? Mais la philosophie est simple. Ça ne sert à rien de donner beaucoup d'argent à Christopher Letang ou le faire signer à long terme avec les Canadiens quand tu sais que tu n'es pas rendu là. Tu fais perdre ton temps à Chris Letang d'une certaine façon. Tu comprends?
Mmh. Ouais, ouais.
C'est lui, je sais que les pingouins vont mal, là, mais on retourne au mois de juillet, là, je veux dire, les pingouins sont plus proches d'une Coupe Stanley, ou étaient plus proches, mais je pense qu'ils sont encore plus proches aujourd'hui d'une Coupe Stanley que les Canadiens de Montréal, tu comprends?
Oui.
Donc, c'est là la logique, puis tu es obligé de l'appliquer avec Eric Carlson. Eric Carlson, c'est un défenseur quand même élite. Tu sais, je pense qu'il connaît en plus une...
redevenu élite.
Redevenu élite, bon terme. Puis... il a connu vraiment un excellent début de saison. Est-ce que je le vois plus avec les Sénateurs d'Ottawa que les Canadiens de Montréal? C'est sûr. Je pense que les Canadiens sont pas là.
C'est parce que c'est...
Du tout.
Bon, c'est là que je voulais faire le lien parce que Elliot Friedman, dans son 32 Thoughts, a parlé justement d'Eric Carlson, possiblement, avec les Sénateurs.
Oui.
Personnellement, si on me pose la question, je vais dire « no way, Jose ». Mais toi, ta perception...
Ben, d'une manière ou d'une autre, Nicolas, les Sénateurs vont avoir besoin d'un défenseur. Puis, tu sais, plus tôt que tard, là. Tu peux pas demander à Thomas Chabot, Parce que là, tu vois, il est blessé. L'an passé, il jouait quoi, Thomas? 26, 27, 28 minutes par match? Tout le monde disait la
puis
même affaire.
Puis je pense que si on ne l'aurait pas retenu, il aurait joué 60 minutes à le voir.
Probablement, probablement. Mais tout le monde disait la même chose. Quand tu surexploites un défenseur comme ça, à un moment donné, les blessures vont arriver.
La commotion cérébrale, pour moi, là, gars, écoute, là, on s'entend, on va en parler. Là. Au-delà de 24 minutes, là, t'es dans une zone, là, pour n'importe quel défenseur, Renaud, puis tu me diras le contraire, là, tu l'envoies pour les erreurs. Quand tu fais des erreurs, de la fatigue. Après ça, c'est des erreurs.
Ben
des
oui.
erreurs mentales, après ça, tu t'exposes. Tu t'exposes à quoi?
Ben
à des
oui.
erreurs comme ça, puis des blessures, comme on a vu.
Ben oui, c'est sûr, parce qu'à un moment donné, tu baisses tes gardes. Tu sais, pas plus compliqué que ça, puis c'est pas du tout la faute de Thomas, là, on s'entend. Mais c'est parce qu'à un moment donné, quand la Ligue nationale, si tu joues du 25 minutes plus là, dans un match de hockey, là, t'es obligé, permettez-moi le terme, de te gager. Okay? En te gageant, tu baisses les armes. N'importe qui a joué au hockey qui nous écoute présentement savent exactement de quoi on parle. Et ça vous est arrivé des fois de jouer dans un match de hockey comme défenseur. Il en manquait un, il en manquait deux. Puis là, on parle de n'importe quelle ligue. Là, c'est même pas important, là.
Renaud, t'aurais dû me voir un matin dans ma ligue de garage, on était 8.
Ouais. C'est ça. Non, mais. Puis, il a fallu que tu te gages. Mais, parce que le gars, l'autre part, là, qui joue du 10 minutes ou 12 minutes par match, lui, il se gage pas, là, lui. Là. Lui,
ouais.
il est à 100%. Puis, il va y aller à 100%. Ah, j'ai Thomas Chabot devant moi. Let's go. Mon coach va être content, je vais avoir fini ma mise en échec. Mais c'est ça qui s'est passé. Pas plus compliqué que ça. L'être humain, tu sais, on parlait de Christopher Letang, son temps de glace a baissé beaucoup cette année. Là. Chris, qui jouait du 26-27, est autour de 24 minutes.
L'âge a peut-être à voir un peu là-dedans aussi, là, dans son
ouais. Moi, je pense qu'on essaie de une nouvelle formule du genre... La nouvelle formule, c'est du genre, on veut que tu sois prêt pour les séries, on veut que tu sois plus efficace pour les séries, mais il faut que tu te rendes en série. Moi, c'est là où, là, des fois, je me dis, moi, un gars comme Chris Letang, j'allais mieux le voir jouer 26 minutes par match que 24. Parce que Chris, c'est une machine de guerre. Mais en même temps, j'ai compris, ils se disent, ben ouais, mais c'est parce que quand on arrive en série, il faut qu'il en joue 28, 29, puis c'est encore plus exigeant. Tu sais, il y a bien des... Il y a rien de parfait, on va le dire comme ça. Il n'y a rien de parfait. Puis, écoute, pour revenir à notre promesse du départ... Les sénateurs d'Ottawa ont besoin d'aide à la ligne bleue. Ils ont besoin d'aide à la ligne bleue. C'est urgent. Alors, c'est là où on en est. C'est une belle équipe, celle des sénateurs. J'étais content hier. Tu mènes 1-0, ça devient 1-1. C'était pas parfait, mais tu sors du match avec la victoire.
C'était loin d'être parfait.
Oui, mais sais-tu quoi? Si les sénateurs avaient perdu ce match-là, j'aurais été extrêmement inquiet. Extrêmement. Là, mon niveau d'inquiétude aurait été là, dans le tapis. Mais, ils vont me dire, ouais, mais Renaud, les Sabres jouaient deux matchs en deux soirs. C'est correct, je comprends. Mais ils sont revenus, ils ont créé l'égalité, ils ont poussé les sénateurs dans les cadres. Puis les sénateurs ont été capables d'aller chercher ce match-là. Des fois, ça ne prend pas beaucoup de choses, Nicolas, pour relancer une équipe. Je te le dis, là, ça ne prend pas beaucoup de choses. Je te dis pas qu'on est rendu là, chez les sénateurs, mais il faut qu'ils prennent chaque victoire comme si c'était le début de quelque chose de nouveau. On n'a pas le choix du côté des sénateurs de le voir comme ça. Je ne dis pas qu'il faut s'enflammer et qu'il faut dire « Hey, on est bon, on est meilleur que tout le monde, on a battu les Sabres de Buffalo », c'est pas ce que je suis en train de te dire. Je te dis que dans le hockey d'aujourd'hui, là, en réalité, là, c'est mental. Les équipes là, sont toutes pareilles. Ils vont me dire « Ben voyons donc, Renaud, les équipes sont toutes pareilles. Regarde les Pingouins de Pittsburgh, ils ne sont pas capables de gagner les matchs de hockey. Pourquoi? » Mais ils n'ont pas de goal. Pas compliqué, là.
Ouais.
Il n'y en a pas un qui arrête la POC. Puis là, quand ils se mettent à gagner, c'est parce que Casey DeSmith, il sort la tête de l'eau et il est capable de gagner des matchs. Tristan Jarry, le gardien numéro 1, n'est pas capable de le faire. Chaque équipe a ses problèmes. Il y a.
Oui, mais il y a des façons de compenser, par exemple. Si tu as un problème X, la job de l'entraîneur est capable de compenser puis de trouver un schéma de jeu qui va pouvoir justement t'aider.
Il y a une
adaptation qui se fait. Là.
2000%. Puis le problème dans la Ligue nationale de hockey, c'est que les entraîneurs s'entêtent. Puis ça me fait capoter. Puis écoute, le meilleur exemple, là, moi, j'en revenais pas, je reviens toujours pas.
qui l'ont retourné il y a longtemps. Sharks de San Jose en finale de la Coupe Stanley contre les Pingouins. Je veux dire, les Sharks décident de jouer le même style de jeu face aux Pingouins, qui était beaucoup trop rapide pour eux. Aucune adaptation, aucun changement, aucune mise au point. Ben oui, patine qui a plus vite que nous autres, mais c'est pas grave, nous autres, on s'est rendu là grâce à notre système, puis on va rien modifier. Bon, ben, modifie rien, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Puis ça n'a même pas été long, là, je veux dire. Ou est-ce qu'on me dira, ah, ça s'est terminé en 6, par défaut, là. Okay? C'était une marche dans le parc pour les Penguins de Pittsburgh, sans blague. Alors, à partir de ce moment-là, tu dis, OK, mais pourquoi tu n'es pas capable de t'adapter? Tu penses que tes joueurs sont pas assez intelligents? C'est là où moi j'ai un problème, puis je te rejoins énormément sur le fait qu'il faut demander de plus en plus aux joueurs de s'adapter. Oui, c'est vrai qu'on te demande, on enseigne beaucoup dans le camp d'entraînement, on passe du temps à parler de nos systèmes, de ce qu'on veut faire. Hey, mais si ça marche pas, là. En passant, c'est comme ça que Dominique Ducharme a perdu sa job. Hein. Pas parce que Dominique Ducharme, c'est pas un bon coach, ça n'a pas rapport. Mais le système de jeu qu'il imposait à ses joueurs n'était vraiment pas le bon. Puis les joueurs le voulaient pas. Et lui disait que ça fonctionnait pas. Puis lui, il voulait pas s'adapter.
Non.
Alors, à partir de ce moment-là, les gars, ils ont remis les clés du char, là. En disant, oh ben, nous autres, on dit que ça marche pas, qu'on n'a pas le groupe pour faire ça. Toi, tu dis, non, on va continuer. Bon, ben, prends les clés du char, va-t'en avec le char. Parce que ça marche pas. Alors, est-ce que puis ton point est vraiment bon. Il mérite, d'après moi, qu'on s'y attarde. Est-ce que le hockeyeur moderne, pas celui de 2022 en passant, mais celui, mettons qu'on fait des projections, de 2032, devra s'adapter à différents styles de jeu, dépendamment du match? T'sais, on entend souvent la même chose des entraîneurs ou des joueurs. Nous autres, on se concentre sur nous autres. Bon, oui, concentre-toi sur toi. Mais c'est parce qu'il y a un club de l'autre bord qui joue peut-être différent de toi.
Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on dirait on dirait que tout est rendu cookie-cutter dans la Ligue nationale. C'est qu'il y a pas de...
tout le monde se protège.
Ben, c'est ça, mais il n'y a pas de variante. Puis il me semble, regarde, meilleur exemple, c'est le maudit entrée de zone pour l'avantage numérique. Là, la passe par en arrière, c'est-tu fatigant? Hey. Puis c'est tout le temps redondant. Il n'y a rien d'autre.
Mais, sais-tu quoi? Quand on parle d'adaptation, depuis la semaine passée, tu remarqueras, je ne sais pas si tu as la chance de regarder le match du Canadien ce soir, ça ne me surprendrait pas qu'on le voit. Mais samedi, face aux Pingouins, tu sais, les Pingouins, c'est quand même pas un club bidon, là. Ben, les joueurs des Canadiens répétaient ce qu'ils faisaient en avantage numérique avec la passe par en arrière, mais à 5 contre 5.
Ah.
Là, je dis, waouh, ça, c'est intéressant. Ils l'ont pas fait juste une fois, là. Donc, ils l'ont fait 3-4 fois pour faire leur entrée de zone. Là, je trouvais ça intéressant. Parce que c'est différent, tu comprends, de ce qu'on voit à 5 contre 5. Mais tu as tout à fait raison. Comment est-ce... Puis le pire, c'est que j'en parlais avec Chris Sutton la semaine passée, dans le balado. Comment est-ce possible qu'Alexander Ovechkin marque autant de buts en avantage numérique à la même place? C'est tout à fait anormal qu'avec la qualité...
C'est incroyable, pareil.
Ben oui, mais c'est anormal qu'avec la qualité... Je vais le mettre en guillemets, des entraîneurs qu'il y a dans la Ligue nationale, qu'au cours des 15-20 dernières années, Alex est arrivé en 2005, là, donc ça fait 17 ans, je comprends, 15-16 ans. Bon, comment ça qu'on lui permet encore de marquer des buts, là? Là, Chris va me dire, oui, mais il y a d'autres bons joueurs. Oui, il y a d'autres bons joueurs. Mais moi, comme coach, je me dirais... C'est pas vrai que c'est Alexander Ovechkin qui va me battre à soi. Si c'est TJ aussi qui me bat, pas trop. Si c'est Carlson qui me bat, pas trop. Mais les chances que ces gars-là marquent beaucoup en avantage numérique sont moins grandes que le Alexander Ovechkin, le numéro 8. Donc, pourquoi qu'on réfléchit pas à ça? Pourquoi qu'on demande... Tu sais, le désavantage numérique, là, c'est toujours la même affaire. Les gars sont toujours placés la même affaire. T'as des équipes qui sont agressives sur le porteur du disque, il y en a qui restent, si tu veux, en défensive de zone. Mais je comprends pas pourquoi on n'est pas plus agressif, mais d'après moi, il y a une seule et unique raison pour ça. C'est parce que tout le monde fait du copycat juste pour se protéger.
Mmh.
Et après ça, on va dire, ben, c'est aux joueurs à exécuter. Ouais, mais toujours exécuté. Comme je te dis, là, toutes les équipes dans la Ligue nationale se ressemblent. Puis si vous pensez que les Devils du New Jersey sont différents des autres, parce que ce soir, pourraient remporter leur 11e match, là, je peux mettre ce que tu veux. Ce que tu veux. Les Devils gagneront pas la Coupe cette année. Là.
Ouais, écoute, la manière qu'ils jouent en ce moment, ils pourraient nous faire mentir, mais t'as raison. Écoute, c'est pas, c'est pas une équipe qu'on avait vue là. On s'entend. C'est surprenant.
Ah, oui, mais ils sont bons. Mais là, présentement, là, ce qu'on regarde comme hockey, là, je vais le répéter, c'est les Ice Capades et les Ice Follies. Ça permet à ces équipes-là là, de flasher. Personne ne les flash. Personne n'est dans leur face.
Regarde, l'exemple parfait, c'était hier, les Sabres. Encore un départ canon, puis là, ben, ça revient sur le plancher des vaches.
C'est ça. Mais donc, il y a des exceptions, comme les Devils présentement. C'est sûr qu'il y a des bonnes équipes dans les nationales. Mais, tu sais, l'Avalanche Colorado ne connaît pas son meilleur début de saison. On s'entend. Mais est-ce que tu peux me dire que c'est sûr que l'Avalanche, à 100%, ne gagnera pas la Coupe cette année? Pour sûr, il y a ça, moi. Ils sont bâtis pour veiller tard. Puis, être bâti pour veiller tard, là, c'est pas ce que les Devils sont présentement. C'est pas parce que tu gagnes 10, 11 matchs au mois de novembre que t'es bon. Je te dis pas que t'es mauvais. T'es meilleur que bien du monde. Mais j'ai hâte de voir rendu au mois d'avril, là. Tu vas être capable de traverser le mois d'avril.
C'est là qu'on sépare les hommes des enfants. Ce soir, je vais regarder, c'est sûr, le Canadien contre les Blue Jackets. Oui. Mais à 8h30, je me tourne vers le football parce que je vais regarder les Packers, mes Packers, torcher les Titans.
Oh.
Salut, mon chum.
Torcher?
Ah, torcher. Ils m'ont torché.
Comme ça, ouais. Ça a battu les Cowboys, je
pense. Hey, en revenant de l'arrière, c'est magique.
Ah, oh, écoute.
Un point pivot. Victoire pivot, mon ami.
Il n'y a pas un sou noir sur tes Packers.
On s'en parle la semaine prochaine, mon chum. Bon week-end.
J'espère. Bon week-end. Puis, je ne gagnerai pas plus sur mes Bears, ça, c'est en disant. Mais il n'y aura pas d'argent sur la table aujourd'hui sur les Packers.
Ciao, amigo.
Salut, bye-bye.
Bye-bye. Renaud Lavoie, mesdames, messieurs, TVA Sport, deux fois la semaine avec nous. On est disponible sur les plateformes de balado-diffusion, on parle de ça, alors... Alors, chez vous, là, vous pouvez réécouter les meilleurs moments, puis évidemment, les émissions précédentes en entier à part de ça. On a un merveilleux site, d'ailleurs, uniquefm.ca, puis c'est sûr et certain qu'on vous invite à le fréquenter. Vous pouvez nous texter durant l'émission, 613-697-2292. Il y a 13 matchs ce soir en Ligue nationale de hockey, puis à part, évidemment, les Canadiens qui vont visiter les Blue Jackets à Columbus, et là, bien évidemment, il fallait que mon ordinateur flanche en ce moment. On va se reprendre. Alors, comme je disais, il y a les Canadiens qui vont affronter les Blue Jackets à Columbus. Et finalement, on a mis du bois dans le poêle. Les Flames contre le Lightning, l'Avalanche contre les Hurricanes, les Panthers vont recevoir les Stars. Il y a les Devils à Toronto contre les Maple Leafs, les Flyers contre les Bruins, les Jets contre les Ducks. Bref, une grosse soirée de hockey en plus du match du jeudi soir en NFL. Poursuivons la discussion hockey avec notre ami Jacques Martin. Jacques, comment vas-tu?
Ça va bien, Nicolas.
Jacques, je veux pas te prendre au dépourvu, mais je trouvais ça intéressant, la discussion avec Renaud Lavoie, puis je dois te poser une question qui sort un peu du champ gauche, si tu me permets. On se demandait pourquoi dans le hockey de nos jours, on semble que les systèmes, c'est tout du copie-coller comparativement. On semble avoir du... Tu sais, du cookie cutter, il n'y a pas d'originalité dans l'ensemble des formations. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation-là ou tu penses le contraire?
Non, je ne suis pas d'accord parce que je pense, oui, les systèmes sont quand même peut-être semblables. On regarde le hockey a évolué. C'est sûr que le hockey est devenu un style beaucoup plus agressif, un échec avant. La plupart des équipes sont beaucoup plus agressives que dans le passé. Mais il y a des changements. On regarde, il y a certaines équipes qui préconisent, disons, vraiment un contrôle de la rondelle, ne lancent très peu la rondelle dans la zone adverse, veulent pénétrer avec contrôle. Donc, comparativement à d'autres équipes qu'on voit à certains moments, il y en a encore qui vont atteindre la ligne du centre et lancer la rondelle profondément, essayer de recouvrir la rondelle avec leur échec avant. Il y a quand même des changements, mais c'est sûr que si on regarde, lorsqu'on parle de changements, je pense que c'est intéressant, si on regarde le nombre de jeux déjà préparés lors des mises au jeu,
ouais.
Je pense que tu ne retrouvais pas ça il y a 10-15 ans passés. C'est beaucoup plus de nos jours. La majorité des équipes ont certains set plays qu'on appelle sur les mises au jeu. Donc, puis on a différents systèmes que certaines équipes utilisent. Donc, je pense qu'il y a quand même, de la variété. Mais ce qui est peut-être plus qu'on retrouve en majorité du temps, c'est un jeu agressif, beaucoup d'échecs avant, beaucoup de pression sur la rondelle comparativement à dans le passé.
Super intéressant, les set plays, les jeux préconçus. Une des raisons pourquoi je voulais te parler aujourd'hui, c'est parce qu'on a annoncé, puis avec raison, que le premier joueur de l'histoire des Sénateurs à avoir l'honneur d'être sur l'anneau d'honneur sera Wade Redden, puis c'est un gars évidemment que tu connais très très bien. Wade Redden, c'est un honneur pleinement mérité. Ce qu'il a représenté pour toi en tant que joueur?
Bien, Wade a été notre corps arrière pendant plusieurs années, a été notre défenseur numéro un. Un joueur qui était quand même excellent sur le jeu de puissance, un très bon quart arrière, une excellente vision du jeu. Aussi, disons, s'il n'avait pas peut-être une rapidité extrême, il était quand même excellent à reprendre la rondelle et à repérer le joueur libre et un excellent première passe. Je pense que Wade, dans ses années avec les Sénateurs, puis surtout à mon époque, a joué quand même de l'excellent hockey. C'était notre défenseur numéro un pour plusieurs années.
Est-ce qu'on peut reconnaître aussi ses qualités de leader? Est-ce qu'on peut parler d'un leader dans cette chambre-là?
Oui, définitivement. Il faisait partie du groupe de leaders. Donc, je pense que Wade était un peu plus jeune qu'un Daniel Alfredson, mais je pense qu'il faisait partie de mon groupe de leader pour nos équipes à cette époque-là.
C'était pas le plus gros, mais est-ce qu'on peut parler d'un gars qui compensait par son intelligence pour le jeu? Est-ce que tu comprends dans le sens que c'était un gars qui était le IQ, hockey IQ, c'était élevé pour lui?
Définitivement. C'est un joueur, donc, comme tu dis, qui n'était pas le plus gros, pas le plus physique, mais savait quand même l'importance de bien se positionner, d'être du bon côté de l'attaquant pour défendre. Puis c'est un joueur, disons, qui servait énormément, comme tu l'as mentionné, de son intelligence, de sa tête, soit pour sortir la rondelle de la zone ou bien pour défendre en ayant un bon bâton et une bonne position de son corps.
Bonne personne qui s'est impliquée également dans la communauté. Alors, chapeau, puis on vous le rappelle, le 12 décembre prochain contre les Ducks d'Anaheim, un honneur pour lui, se retrouvera dans l'anneau d'honneur, il va retrouver l'ancien monsieur Brian Murray. Je veux t'entendre sur la qualité de jeu, en fait, de certains joueurs, en particulier Tim Stutzla, parce qu'on s'entend, même si on l'a gagné hier, les Sénateurs, c'était pas nécessairement du jeu très convaincant, puis un bonhomme qui, des fois, nous donne un peu des maux de tête à regarder, c'est Tim Stutzla. Puis il faut parler un peu d'immaturité. Est-ce qu'il y a des parallèles à faire avec ce que tu as vu de Tim Stutzla et peut-être d'un gars que tu as bien connu également, Jason Spezza?
Bien, c'est sûr que les joueurs, disons, lorsqu'ils sont de jeune âge, lors de leurs premières années dans la Ligue nationale, chaque joueur a un différent niveau de maturité. Je ne connais pas tout ça, mais définitivement, donc comme Jason Spezza était un excellent joueur de hockey, mais avait, disons, c'est un jeune qui avait manqué peut-être de maturité à certains temps, mais qui s'est amélioré beaucoup avec les ans, avec les années, a appris à jouer, disons, de la bonne façon. Puis je pense dans le cas de Souci, c'est un peu le même phénomène. Donc, dans les jeunes joueurs, des fois, reconnaître l'importance de notre jeu sans la rondelle, c'est pas toujours évident pour des joueurs offensifs.
On a parlé précédemment du temps de glace de Thomas Chabot, puis pour moi, une des raisons pourquoi il se retrouve avec une commotion cérébrale, c'est parce qu'on le joue trop souvent, puis trop longtemps. Ta théorie sur un joueur de pointe comme un gars Thomas Chabot, c'était quoi pour le temps de glace? Comment tu utilisais un joueur comme ça, selon toi? Et est-ce que tu trouves qu'on le joue trop?
Bien, non, C'est dur à dire. Je pense qu'il faut faire confiance aux entraîneurs. Puis, ça dépend aussi de la capacité physique du joueur. C'est sûr, dans le cas de Thomas Chabot, c'est un gars qui joue avec son intelligence, avec sa rapidité, son déplacement de rondelle, est capable de repérer les ouvertures. Très bon fabricant de jeu. Donc, c'est pas comme un joueur qui est un gros défenseur, qui est physique, et ainsi de suite. C'est difficile à dire. C'est ça. C'est vraiment la responsabilité de l'équipe, des entraîneurs, de juger le temps de glace qu'on doit lui faire faire. Mais souvent, des fois aussi, pour regarder lorsqu'on a des joueurs qui sont absents à cause de blessures ou à cause de la profondeur de l'équipe à la défensive, peut-être que ça force les entraîneurs à surutiliser un joueur comme Chabot.
Puis est-ce que tu adhères à cette théorie-là, par exemple, c'est que passé 24-25 minutes, le gars est exposé. C'est-à-dire, t'es fatigué, t'as moins d'énergie, tu penses moins, tu t'exposes, puis tu t'exposes à des blessures. Est-ce que ça fait du sens, ça?
Ça fait du sens, mais il reste quand même, tu peux pas, c'est pas une règle... Qui s'applique à tout le monde. Ouais. Regarde Cale Makar avec les Avalanches, c'est tellement un bon patineur. C'est pour ça que des fois, il faut quand même avoir une certaine liberté. Mais c'est sûr que lorsque tu joues plus que 24 minutes par partie, 25 minutes, c'est beaucoup de temps de glace. Et aussi, si on regarde l'horaire de la Ligue nationale maintenant, beaucoup de parties à chaque semaine. Donc, ça vient des fois que ça vient peut-être un peu épuisant pour certains joueurs.
J'ai des sujets pour à peu près une heure et demie, puis on manque de temps. Alors, je vais quand même te laisser vaquer tes occupations. Mais avant de te laisser, on s'est croisés cette semaine pour un match 67 Frontenac. Tu travailles pour les Frontenac, mais ta perception, c'est beau à voir les 67, une belle équipe?
Oui, très belle équipe. J'ai eu l'opportunité de discuter avec un de leurs assistants entraîneurs avant le match. Et j'avais vu le match la semaine dernière aussi des 67 contre Kingston à Kingston.
Ouais.
Donc, c'est une belle équipe, une équipe qui joue rapide, qui a beaucoup de rapidité, qui a une bonne profondeur, qui connaît beaucoup de succès. Puis, c'est intéressant pour cette équipe-là et aussi pour le groupe d'entraîneurs qui font de l'excellent travail. Et c'est bon d'avoir une équipe comme les 67 connaître du succès dans la ville d'Ottawa.
On va garder les autres sujets pour la semaine prochaine, Jacques. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. On se dit à jeudi prochain.
Toujours un plaisir.
Jacques Martin, mesdames, messieurs, une fois la semaine avec nous. Est-ce qu'on a le temps? Tu veux le faire jouer? Mais que Lafleur dit, on a quelque chose dans le fourneau, puis je veux sortir, je l'ai cuit, il est prêt, il est dodu, puis ah ouais, let's go! On a pour vous les commentaires de Jake Sanderson après la victoire des siens, puis un gars qui a eu son mot à dire, on s'entend. Écoutons ce qu'il avait à dire après la rencontre, comment il était satisfait de sa performance.
Yeah, no, it was a little ugly just with all the penalties, but our PK came up huge, and that was the difference in the game, so it was nice.
Where did you end up at the end of the game? I know you blocked that shot with about two and change to go. Where did that one catch in?
Just the inside of my leg. A little stinger, but it'll be all right.
Looks like you're getting more comfortable with more time, more playing time.
Yeah, I think so. I'm grateful for the playing time I have, so I try to make the most of it. And it's really nice having Hammer on my right side with me, so he's a huge help.
Fun going up against the other team's top lines. Mm.
Yeah, I know it is. They had some great players over there that made some good plays, but we shut them down. We got the best of them tonight.
Biggest challenge for you right now, knowing you're going to take those extra minutes and going up against the top line.
Yeah, I think kind of what you said, just bringing it every night, knowing that you're going to be playing against their best guys. So just being mentally dialed in, and like I said, it's nice having a veteran guy on my right side to kind of guide me through those tough times.
Do you look ahead of going like, wow, this is who I've got to face, or is it just you don't even pay attention to who's out there really?
A little bit. I mean, there's guys that you watch when you're younger, but at the end of the day, you kind of got to dial it in and bear down, because you got to have a job to do out there.
Jacob Larson's second game up here. What are you seeing from him on the ice?
Yeah, no, he's awesome. He's a great guy. So it was really good to have him up here, and he's been playing great too, just keeping it simple, and he's got great feet and great hockey sense, so hopefully he sticks around a little bit.
Votre numéro 85, mesdames, messieurs, Jake Sanderson, qui a définitivement été Une pierre angulaire à la victoire des siens hier. 5 tirs bloqués. 2 points. 24-55 de temps de glace. 4 lancés au filet. Un autre qui a été raté. Mesdames, messieurs, il était en feu. On fire! Jake Sanderson enlève de la chaleur à un Thomas Chabot. Puis si tu enlèves de la chaleur, ça va l'aider à mieux manœuvrer. Avec beaucoup moins de temps de glace, moins exposé. On le veut en santé, on le veut énergique. Come on, DJ. Come on. Do it! Mesdames, messieurs, restez avec nous. C'est la célébration du sport. Une seule adresse, c'est nous. Dans le vestiaire au 94.5. Que les merci d'être là.
C'est pas toujours facile de trouver un bon agent immobilier. Comment choisir? Moi, je sais que vous devriez choisir. C'est une personne loyale, dévouée, professionnelle, qui fera tout pour vous offrir un service clé en main selon vos besoins.
Appelez-moi au 819-664-3308. Véronique Lassière, la courtière des sénateurs.
Pour avoir le meilleur, il faut choisir Véronique Lassière.
Je profite pleinement de ma retraite. Quel bonheur! Mais est-ce possible que la valeur de mes REER soit réduite à mon décès?
Ici Philippe Ryan. Oui, c'est possible si vous n'avez pas de conjoint éligible au moment de votre décès. Vous pouvez maximiser votre niveau de vie simplement en planifiant proactivement. Appelez-nous ou cliquez philryan.ca. On se rencontre en ligne ou en personne. Cooperators, placement, assurance, conseil.
Salut, ici Antoine Bruno du Rouge et Noir. Vous êtes dans le vestiaire.
De retour dans le vestiaire, mesdames, messieurs. Puis on vous invite à ne pas manquer notre prochaine édition du Hockey des Sénateurs. Présentation Véronique Lossière, courtière immobilière. C'est ce samedi, 13h, les Sens contre les Devils. Avant un petit voyage de 4 sur l'Ouest américain. Pour la troupe de DJ Smith. Parlons un peu du match du jeudi soir, ce soir, alors que mes Packers vont torcher les Titans. On en parle avec Marc Schreiber. Marc, comment vas-tu?
A été en feu depuis qu'ils ont gagné la semaine passée.
Hey, hey, match pivot, Marc, match pivot, revenir de l'arrière, tu gagnes contre les Cowboys, c'est fait.
Bien sûr.
On s'en va en playoff.
Bien sûr. Je le sens dans ta voix là qu'il faudrait pas qu'ils perdent cette semaine parce que tu vas avoir un différent type de ton de voix la semaine prochaine.
Ouais, t'as tout à fait raison. mais au moins par exemple, au contraire des semaines précédentes, on peut dire que le match du jeudi soir a beaucoup de potentiel. Là.
Ah, ça, c'est certain. Puis, tu sais, je regarde en plus qui ils reçoivent parce que Green Bay joue à la maison. On reçoit Tennessee, qui est premier de sa division, qui est avec une fiche de 6-3. Et ces deux équipes, quand tu regardes là, les 9-10 premiers matchs de la saison, c'est deux équipes qui ne marquent pas beaucoup de points. Donc, c'est des équipes qui, en général, bon, Tennessee a gagné plus de matchs, par exemple, mais ça veut dire que c'est des équipes là, qui ont tendance à... avancer graduellement, tranquillement, on va pas chercher les longs jeux. Et d'ailleurs, Tennessee, l'attaque est axée sur le jeu au sol, comme on sait bien. Et donc, si j'étais à la place des deux équipes, à la place de Green Bay, ben la chose que je me dis qu'il faut faire pour gagner le match, c'est qu'il faut trouver une façon de fermer le centre du terrain contre le jeu au sol, parce que Derrick Henry, il court en ligne droite. Et donc, il faut même des fois qu'il te permette de changer des secondaires de ligne, Nicolas, puis tu mettes des gars un peu plus pesants, un peu plus massifs, peut-être moins mobile sur les jeux de passe, mais s'ils te courent en plein centre puis tu n'arrives pas à les arrêter, tu n'as pas de match. Puis de l'autre côté, si tu fais partie de l'équipe des Titans, ben, il faut que tu mettes de la pression sur Aaron Rodgers parce qu'il n'est pas hyper mobile, ce bonhomme-là. Puis surtout, si tu lui mets de la pression et tu arrives à sa droite, tu es un droitier, si tu arrives face à lui, tu vas le forcer à tourner puis courir vers sa gauche. Puis il n'est vraiment pas très, très bon pour lancer le ballon quand il court à gauche. Donc ça, c'est une stratégie souvent qu'on essaie contre des joueurs peu mobiles. Et profite-en aussi pour essayer d'avoir des bonnes couvertures de passe, parce qu'Aaron Rodgers, c'est un des corps qui attend le plus longtemps possible. Il préfère se recevoir un sac, puis se donner une chance de compléter une passe tardive que de lancer le ballon n'importe où.
Oui, c'est définitivement un match à surveiller ce soir. Dans les trois matchs que tu vas surveiller en fin de semaine, le fun que tu débutes avec les Jets contre les Pats, parce qu'on a appris aujourd'hui que Laurent Duvernay-Tardif vient de s'entendre et il s'en va rejoindre les Jets. Avec l'équipe d'entraînement, mais ça pourrait évidemment mener à un rôle de partant. Évidemment, c'est un premier pas dans la bonne direction. C'est réjouissant de voir Laurent Duvernay-Tardif retourner là, en NFL.
Oui, qui a complété sa résidence comme un médecin. Il retourne là-bas. C'est vraiment un exemple à suivre comme bonhomme. Hein, où tu peux réussir autant dans ta vie professionnelle que sportive. Et donc, pour moi, c'est le premier match sur lequel je vais garder mon attention. Dimanche 13h, les Jets qui ont une fiche de 6-3, qui jouent contre les Patriots qui ont aussi une fiche positive à 5-4, bien, c'est deux équipes de la même division. C'est deux équipes qui vont se battre dans les prochaines semaines pour maintenir le rythme, pour être meilleur deuxième. Et donc, ça va être tout un match. Et en plus, c'est vraiment le fun qu'ils font ça cette année, la NFL. Ça fait à peine deux semaines qu'ils ont joué l'un contre l'autre. Et les Patriots avaient gagné 22-17, donc c'était très proche, 5 points de différence. C'est le fun de pouvoir retrouver des équipes comme ça quelques semaines après avoir eu un match serré.
Ça ajoute du piquant. Dimanche, 16h25, il y a Dallas qui visite les puissants Vikings au Minnesota.
Ben, on n'a pas le choix de mentionner qu'à chaque fois que les Vikings jouent un match cette année, surtout là, il faut regarder ce qui se passe. Là, on joue contre une bonne équipe. Dallas là, a toute une attaque. Et moi, ce que j'aime quand on voit Minnesota, Nicolas, là, c'est que je me dis toujours, qu'est-ce qui va arriver avec Nick Cousins? Le genre de roulette russe, ce bonhomme-là, qui, en tout cas, depuis le début de l'année, chapeau, là. Mais lui, des fois, il en prend des risques, il lâche le ballon, des fois dans des situations risquées. Mais jusqu'à maintenant, s'il peut prendre des bonnes décisions, il fait bien. Mais je trouve quand même que c'est une roulette russe. Et pour moi, toujours un plaisir de le regarder parce que il peut nous surprendre des fois dans sa belle performance quand il fait des erreurs flagrantes.
Et dimanche soir, c'est un match intra-division qu'on nous propose.
Encore une fois, Kansas City qui rend visite aux Rams de Los Angeles. Deux équipes, encore une fois, première et deuxième position, qui vont vraiment bien. Puis eux autres, la particularité, c'est qu'on donne beaucoup de points à l'adversaire. Depuis le début de l'année, là, on n'a pas des défensives très, très étanches, ce qui veut dire qu'il faut marquer des points pour gagner nos matchs. Il faut en marquer beaucoup. Et donc, on peut s'attendre à un festival offensif dimanche soir.
Évidemment, il y a la NFL, mais une petite pensée, non, une grosse pensée, évidemment, pour le rendez-vous de la Ligue canadienne de football, c'est la Coupe Grey. Toronto d'un côté, Winnipeg de l'autre. Il y a bien des questionnements concernant Zach Collaros, s'il sera en uniforme, mais je pense que, ben, comme l'a dit un des joueurs de Toronto en point de presse hier, il n'y a personne qui se présente en Coupe Grey à 100%, alors... On voit pas pourquoi Collaros ne serait pas là, mais étant donné la nature de sa blessure, il y a toujours des points d'interrogation.
Et on se le souhaite. Je veux dire, c'est un joueur qui, tu sais, tu souhaites avoir les meilleurs joueurs sur le terrain. Il a vraiment eu un impact incroyable sur l'ensemble de la saison. Donc, Toronto, 11 victoires, 7 défaites, premier de la division ou de la conférence de l'Est, joue contre Winnipeg, 15 victoires, 3 défaites, premier de la conférence de l'Ouest. Donc, les deux meilleures équipes cette année se rencontre, il faut que les meilleurs joueurs soient sur le terrain. Et j'ai bien hâte de voir si la température et la météo vont avoir un impact. Parce que présentement, aujourd'hui, là, j'ai lu certains titres de presse. Là, et à Regina, on s'entraînait et il faisait moins 25 sur le terrain. Et tu t'imagines, on ne sait jamais ce qui peut se passer là. On annonce moins 8 pour l'instant. Mais un match en l'Ouest canadien à la fin novembre, c'est toujours dangereux. C'est pour ça que je pense que l'équipe qui va pouvoir s'établir au sol risque d'avoir une meilleure chance de gagner parce que tu ne vas pas gagner par la voie des heures quand il va faire moins 10, moins 15.
La température qui ajoute au classique et au cachet de la Ligue canadienne de football, on adore puis on souhaite évidemment une autre classique. Parle-moi des c'est les demi-finales, si je ne me trompe pas, au football universitaire, UTEC Bowl et Mitchell Bowl.
Exact, donc les demi-finales nationales au pays, donc le football universitaire canadien, il reste seulement 4 équipes. Puis dans ma tête, il va y avoir un seul vrai match. Voici pourquoi. Samedi 13h, en Atlantique, donc la conférence de l'Atlantique reçoit le gagnant de la conférence de l'Ouest. Donc, c'est l'Université Saskatchewan qui joue contre Saint-FX. Et ça, ça reste à sens unique, là. Ça fait plusieurs années quand on joue contre la conférence de l'Atlantique qui ne sont pas de calibre des autres conférences. On ne le souhaite pas, mais je ne m'attends pas à un grand match. Tandis qu'à 15h, en Ontario, à London, en Ontario, c'est le Mitchell Bowl, l'autre demi-finale nationale, l'Université Laval et le Rouge et Or rencontrent Western, la grande puissance de l'Ontario. Je pense que c'est le match à voir si vous aimez le football universitaire canadien.
Oui, définitivement. Puis encore là, on souhaite la meilleure des chances aux quatre formations. C'est la capsule avec vos lunettes de coach. Tu vas nous parler du lexique, d'une préparation d'un jeu. On pense toujours au fameux Omaha de Manning. Mais au-delà de tout ça, il y a des choses à comprendre, puis tu vas nous aider à démêler tout ça.
Ouais, mais au fond, il existe effectivement, c'est bien connu, même si on ne comprend pas toujours, un langage très spécialisé au football. Et ça change d'une équipe à l'autre, évidemment, parce que des fois, on veut s'assurer que l'adversaire n'a pas d'idée de quoi on parle. Mais pourquoi? Bien, ça part du fait qu'on n'a pas beaucoup de temps. Quand on fait un caucus à l'offensive, par exemple, le carrière soit le jeu des lignes de côté, bien, il ne peut pas commencer, il y a 10, 12, 11 joueurs devant lui, dépendamment de la ligue, pour commencer à dire « OK, toi, voici ce que tu vas faire, toi, toi aussi, ce que tu vas faire. » Tu n'es pas en train de jouer au football dans la rue avec tes chums. Tu as à peine 7-8 secondes maximum pour t'assurer de donner une séquence de mots, de codes, qui fait que tout le monde va comprendre. Et donc, si je le fais dans mon caucus, bien, au moins l'adversaire ne me comprend pas, ne peut pas entendre même mes codes. Mais des fois, pour sauver du temps dans un match, comme on le sait, on va crier, on s'installe tout de suite à la ligne, c'est ce qu'on appelle du sans-caucus. Là, le carrière crie à droite puis à gauche tout ce qu'ils vont faire. Imagine-toi, il ne faut pas que l'adversaire... Tu ne peux pas crier « Hey, on va courir à gauche, les boys ». Ça ne marche pas de même, là. Il faut avoir des codes qui fait que l'adversaire n'a aucune idée de ce qu'on dit. Et donc, ça peut être intéressant, des fois, de comprendre, même si on ne peut pas savoir avec exactitude, c'est quoi ces codes-là. Je vous donne des exemples. Donc, dans mon passé à moi, je te fais rire à chaque fois, chaque année que j'en parle, oui. Mais un des jeux que j'ai appelé avec mes équipes universitaires à moi, c'est la séquence suivante. Disco Dan, 51 pizza lundi. Et voilà. 5 mots, qui savait, et 12 joueurs savaient exactement quoi faire. Et donc, je vais vous donner un exemple de ce que ça peut représenter. Je vais prendre le mot Dan dans Disco Dan. Dan, c'est un prénom à 3 lettres qui commence par D. D pour droite, 3 lettres, 3 receveurs. C'était ma formation. Oh, je disais à tout le monde, on va se placer à 3 receveurs à droite. Guy, c'était à gauche. Et ainsi de suite, Dave, c'était 4 receveurs à droite. Tu vois? Donc, chaque équipe va prendre ses propres codes. Disco, ben, c'est qu'avant de se rendre en Dan, ça disait quel genre de mouvement avant la mise en jeu du ballon on va faire. Transfert d'un joueur de gauche vers la droite ou ainsi de suite, mais on finissait dans la formation de Dan. Et rapidement, pourquoi le mot pizza? Ben, c'était le type de patron de passe que couraient les receveurs de passe. Puis tu sais, une pizza, là, t'en mets dessus, tu mets de la viande, tu mets des légumes, tu mets du fromage.
À étage.
Donc, c'est comme à étage.
Oh, et yes!
Donc, on riait avec ça, donc on voulait faire un concept de tracé de passe à 3 étages. Mais là, des fois, mes joueurs, là, ils jouaient des méchants tours. Parce que là, durant la semaine, ils s'amusaient à changer le mot pizza. Là, ils me lançaient Domino's, Mike's ou la pizzeria du coin. Puis même moi, je me disais, c'est quoi le jeu qu'on vient d'appeler, les gars, là? Faut que vous me teniez au courant, au moins comme coach. Un autre exemple, le terme Alex et Alain. J'avais beaucoup de plaisir avec ça. Mais deux receveurs du même bord, fallait croiser, OK? Un qui rentre vers l'intérieur, l'autre vers l'extérieur. Mais des fois, juste avant la levée du ballon, le carrière, il voulait dire, OK, je vais probablement lancer le ballon à l'intérieur, au lieu de à l'extérieur. Alain puis Alex, deux frères. Et là, on avait du fun avec ça, parce qu'au lieu de dire Alex ou Alain, on disait Hilton, bon ami, ou encore n'importe quel ou Alain ou Alex qu'on connaissait dans l'équipe. Omaha, des mots qu'on entend dans la NFL, surtout quand le fameux carrière a pris sa retraite, on en faisait des blagues avec ça. Mais au fond, souvent on va servir comme ça des États américains, des noms de villes. Et souvent, c'est juste un terme qui veut dire « bon, je vais changer le jeu », et c'est leur langage à eux. On ne peut pas nous connaître exactement ce que ça représente. Mais je vais t'en donner un exemple, parce que j'étais allé à une clinique de football de la NFL une bonne fois, puis le coach n'arrêtait pas de dire « Bruce ». On va appeler Bruce à la ligne. Là, on dit « OK, qu'est-ce que ça veut dire, Bruce? » Ben, il dit « ben, Bruce, c'est Bruce Springsteen, le fameux chanteur américain ». OK. Mais ben, c'est quoi le surnom de Bruce? Ben, tout le monde l'appelle The Boss. OK. Boss, ben, B-O-S-S, ça voulait dire Back on Strong Safety.
Oh!
Oh my God!
Oh! OK, oh, c'est songé de même, là.
Il n'y a pas grand monde qui pouvait comprendre ça. Puis là, c'était rendu que dans la saison, il donnait le nom d'une chanson de Bruce Springsteen. Il n'y a personne qui pouvait savoir de quoi il parlait l'autre bord. Et donc, avec vos écouteurs de coach en fin de semaine, au lieu de mettre vos lunettes de coach, essayez d'écouter un peu plus juste avant quand le carrière s'installe à la ligne. Des fois, il dit pas... Bon, nous, ça nous dira pas exactement ce qu'il dit, mais ce qu'il dit, ça a une importance capitale pour ses propres joueurs, dans son lexique à lui, dans sa terminologie spécialisée des jeux au football.
Il n'y a pas meilleur que lui. The man, the myth, the legend. Mark Shriver, merci beaucoup. Bonne fin de soirée, bon match jeudi soir, bon week-end. On se dit
bon
à mardi prochain.
Let's go Green Bay.
Omaha, Omaha. Salut!
Salut.
Mark Schreiber, mesdames, messieurs. Wow, j'adore ça de même. La pizza. All dress. Non, boss. M'a dit juste pour s'asseoir et penser à ça, le lexique. Ça doit donner mal à la tête, ça. Ça doit donner mal à la tête. It's just a city boy. Non, c'est même pas ça, je me suis trompé. Et je vais arrêter de chanter. Je m'en vais une pause. Et pas de grand-mère, ça mène pour poursuivre la discussion hockey universitaire dans le vestiaire. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. Bon, ça c'est votre salon. Ça c'est la cuisine. Il y a du tapis, de la carpette, les vitres sont neuves, les électros sont inclus. Je sais pas quoi là, je vais à la maison. Il n'y a pas de négociation, puis j'ai 20 minutes pour vous. As-tu des questions?
Vous désirez trouver le service qui vous convient? Alors choisissez une courtière à l'écoute, intègre et surtout dévouée à vous aider. Ne pas choisir Véronique Lecier, c'est comme ne pas avoir de défenseur. Pour tous vos besoins en immobilier résidentiel et commercial, je suis à votre service. 819-664-3308.
Vous voulez travailler en français? Vous aimez travailler avec les enfants? Si oui, le MIFO recrute pour des postes d'éducatrice, d'animateur, de coordonnateur et plus encore. Pour trouver les emplois disponibles, visitez mifo.ca.
À Chanson Souvenir. Chanson Souvenir avec Max Bauger, le dimanche 16h à Unique FM.
Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension goes, the whistle blows and the puck goes down the ice.
Salut, ici Derek Brassard, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.
Hockey, Véronique Lecier des Sénateurs, ça se passe ce samedi. Alors qu'à 13h, ils recevront la visite des Devils du New Jersey. Parlons un peu des GGs de l'Université d'Ottawa, en hockey évidemment masculin. Avec un énorme plaisir, on parle avec l'entraîneur-chef Pat Grandmaître. Patrick, comment vas-tu?
Très bien, merci Nick.
Ouais, écoute, on se prépare pour le gros week-end, deux matchs en fin de semaine?
Oui, exactement. Deux beaux défis, Collège Royal Militaire demain, vendredi, puis ensuite les Gales de l'Université Queens.
Match d'ailleurs demain présenté sur TV Rogers à ne pas manquer. Parlons un peu des deux matchs en fin de semaine dernière. Défaite de 4-1 contre Ontario Tech et de victoire de 5-1 contre Nipissing. C'est un peu à l'image de ce que vous avez vécu dans la fin de semaine précédente, là, 1-1.
Oui, exactement. Puis dernière conversation qu'on avait eue, on avait parlé qu'on voulait changer notre routine de semaine. Mm-hmm. Question de bien sortir au premier match de notre week-end. Puis c'est exactement ce qu'on a fait. On a dominé la première période. Je pense que les lancers, c'était 17-8. Et puis on n'a pas réussi à marquer de but. Et puis, je te dirais, premier tiers de la deuxième période, une erreur, un rebond qui tombe sur la pelle de l'autre équipe. Puis le momentum a changé grandement. On a poussé la donne quand on tirait l'arrière 2-0, essayer de chercher un but. Mais écoute, c'est une bonne équipe. C'est une petite glace qu'on voit plus bien. Donc, il n'y a pas beaucoup de place sur cette surface-là. Puis une équipe qui joue très bien à la maison. Fait que ils l'ont mérité. On était très contents de notre départ, mais il faut jouer des matchs complets pour gagner.
Oui, des matchs complets. Donc, est-ce qu'on peut parler de constance?
Oui, constance. On n'avait vraiment pas aimé nos trois vendredis d'avant, les premiers matchs, on était amorphes, les décisions n'étaient pas bonnes, l'énergie n'était pas bonne. Là, tout y était. J'ai pas aimé la réaction après le premier but. Je sais pas pourquoi nous, on s'est dégonflé, puis eux, ils ont vraiment pris le momentum de ce but-là. Mais je suis très content la manière qu'on est sorti le lendemain, là, question de ne pas perdre deux matchs de suite, puis de ne pas gaspiller un voyage sans revenir avec des points.
Es-tu satisfait de l'offensive que vous générez?
Écoute, c'est excusez l'expression, là, mais c'est tout ou pas en tout en ce moment. c'est soit que
ça vient en grappe.
Exactement. C'est soit que c'est rien ou le lendemain, ben on s'en va chercher 4, 5 ou 6 buts. Donc j'aimerais avoir plus de constance d'un match à l'autre. c'est la même chose avec nos unités spéciaux. C'est soit que il n'y a rien qui se passe ou que tout va bien. Donc, on est vraiment à la recherche de constance. Je pense que tu l'as bien dit.
Ah, la constance. Une chose qui semble être constante dans votre cas, c'est votre efficacité à court d'un homme. Le désavantage numérique, en ce moment, est un des meilleurs à 89,2%. Peux-tu nous parler de votre structure, de l'efficacité puis justement des éléments que tu as en place?
Oui, je pense qu'on utilise deux stratégies, nous. Quand on a beaucoup d'énergie, on utilise le système de flush down qu'on appelle, ou même de d'essuie-glace. Ça dépend qui l'utilise, puis quel terme il utilise. Puis quand nos joueurs sont sur la glace, après 30-40 secondes, sont fatigués, on tombe dans une formation passive, qu'on reste juste dans les lignes de tir, qu'on a fait des bloqués, des dégagés. Donc, je pense que c'est ça qui nous aide beaucoup, qu'on est capable vraiment de tuer des punitions avec deux systèmes. On a quelques très bons défenseurs qui sont capables de bloquer des lancers et de dégager de filet. Puis tout bon désavantage numérique, un bon gardien en arrière qui arrête des rondelles. En ce moment, Jean-Philippe Tourigny fait vraiment le travail.
En feu, le monsieur, à part de ça, c'est une belle surprise pour vous autres, ça.
100%. Écoute, je ne vous cacherai pas qu'au début de l'année, c'était notre troisième gardien de but. Puis en ce moment, il est clairement notre numéro un.
Pourquoi il est bon de même?
Écoute, c'est son jeu global. Ce qu'on savait de lui en partant, c'est que c'est tout un compétiteur, un gardien de but très athlétique, mais il est petit. Hein. De nos jours, là, un gardien de but dans la Ligue nationale en dessous de 6 pieds, c'est tu t'en vois pratiquement
non,
pas.
Ça n'existe plus.
Et puis, JP, il est 5 et 9 et tiré, peut-être 5-10. Donc, il reste quand même la place dans le haut du filet, mais c'est tout un athlète. Le hockey d'été, JP, il joue à l'avant. Donc, c'est une de ses bonnes forces, c'est quand la rondelle va derrière son but, c'est d'arrêter la rondelle de faire des passes. Ça l'aide beaucoup nos défenseurs. Puis, sa lecture de jeu, c'est quelqu'un de très, très intelligent qui voit le jeu venir, capable de très bien anticiper.
Puck tracking, c'est ça?
Exactement. Oui, puck tracking, mais en même temps, je te dirais le tracking d'un 2 contre 1 ou un 3 contre 2 ou un avantage numérique que lui, si la passe transversale se fait, il n'a jamais l'air surpris. Il est déjà rendu l'autre bord. Le puck tracking peut être difficile pour lui dans le sens que si la rondelle est à la ligne bleue offensive et puis qu'il y a beaucoup de trafic, le JP est petit. Il ne peut pas voir par-dessus nos défenseurs. Il faut vraiment qu'il se penche et qu'il trouve un angle de vision pour voir la rondelle.
Intéressant ça, intéressant. Puis c'est intéressant également que tu me dis qu'il est à l'attaque dans le hockey d'été. C'est un avantage ça, quand on dit de ne pas tout le temps pratiquer une seule et même, puis je fais un parallèle, là, on disait à un moment donné, il n'y a pas si longtemps, empêcher les athlètes de faire seulement un sport, ça les empêche de développer certaines habiletés. Est-ce que tu dirais que ça s'applique pour un gars, un gardien qui pratique à l'attaque l'été? Est-ce que ça aussi, ça l'aide?
Je te dirais que oui. Les meilleurs gardiens que moi, j'ai coachés, c'était tous de très, très bons athlètes et des joueurs que quand ils avaient la chance, eux aimaient mieux. Tu sais, on fait une pratique libre que tu n'as même pas besoin de venir si t'as pas le temps. Des fois, ces gars-là, ils arrivent et ils mettent leur patin de gardien de but, mais ils se prennent des gants de joueurs. Mm. Ils prennent un bâton de joueur aussi. On peut même penser qu'Harry Price aimait vraiment faire ça aussi. Puis JP, c'est exactement ça qu'il fait. Puis on le voit dans ses déplacements derrière le but. Il évite à se rendre à la rondelle, à faire face au jeu. Ses passes, ses dégagements sont très, très, avec une bonne puissance. Donc, il a une bonne lecture. Puis, JP, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un jumeau. Son frère jumeau, lui, il joue pour les Redbirds de McGill. Donc, sûrement quand il était jeune, ils ont dit avoir pas mal de batailles sur la patinoire arrière.
Connaissant Bear, ça devait être. Il devait avoir un petit peu de l'intensité de Bear là-dedans.
C'est ça.
Grayson Ladd, un des recrues pour vous autres, un défenseur avec 5 points en ce moment, 6 pieds. 281 livres. J'aimerais m'arrêter là-dessus parce qu'avec les nouveaux venus, est-ce qu'on peut parler justement de ce qu'ils vous apportent en ce moment, dans cette première année?
Oui, pour nous, là, c'était une prise très tardive pour lui. C'est quelqu'un qui était quand même très convoité parmi d'autres universités et des bonnes offres pour jouer dans la East Coast. Donc, il s'est décidé très tard. On ne pensait pas l'avoir. À un moment donné, les discussions, ils ont été très, très tranquilles. Et puis, écoute, il nous a rappelé de dire, écoute, j'aime juste le feeling à Ottawa. Je pense que je vais avoir beaucoup de temps de jeu, puis j'aime la façon que vous faites les choses. Fait qu'il s'est ajouté avec nous très, très, très tard. Puis pour nous, on avait perdu l'année passée Nicolas Mattinen, défenseur de l'année au circuit du sport, grand droitier lui aussi. Donc, on avait besoin de lui. Et puis, il nous en donne pas mal depuis le début de l'année. mais quand même une recrue qui arrive de l'OHL, qui a toujours une période d'adaptation du niveau d'intensité de notre ligue, que par moment, un peu de nonchalance, mais quand il est très engagé, on peut voir là, que d'ici 2-3 ans, il va être un des meilleurs défenseurs de notre ligue.
Bien, on lui dit félicitations, puis continue son bon travail. J'aimerais déborder un peu sur le hockey de la Ligue nationale de hockey, si tu le permets. On parlait tantôt avec Jacques Martin, on parlait avec Renaud Lavoie, puis je vais continuer avec toi, parce que c'est le fun, parce que tantôt, tu parlais du désavantage numérique, puis ça semblait être une facilité d'adaptation pour toi, dépendamment justement de la situation. Puis une chose que je reproche aux sénateurs en ce moment, c'est le fait qu'on semble boqué, puis on ne s'adapte pas à la situation. T'as-tu le même point de vue à ce niveau-là? Puis sans vouloir critiquer DJ Smith, là, c'est pas ça, mais t'as-tu l'impression... Je suis dans le champ en disant ça, t'as le droit de me le dire aussi. Là.
Écoute, c'est oui et non, dans le sens que je pense qu'ils ont les gars en place pour que ça réussisse. Là où il y a un problème, c'est quand tes effectifs ne croient pas au système ou ne croient pas que ce qu'on vous présente, les entraîneurs, aux joueurs, c'est la bonne solution. C'est ce qui va prévenir des buts. Nous, on le remarque tout de suite. Là, que ce soit un échec avant, un avantage numérique, des avantages numériques ou une stratégie mise au jeu, tu mets les choses en place puis il faut être vite à remarquer que ça fonctionne juste pas. Il faudrait peut-être modifier certaines choses. Mais des fois, des joueurs sont trop vite à abandonner le système. Ça, c'est une affaire. L'autre chose, c'est que certains systèmes demandent certaines lectures de jeu ou certains sacrifices de devoir bloquer beaucoup de rondelles ou de bloquer beaucoup de lignes de tir de transversales. Ça dépend de tous les systèmes. Donc, c'est tout le temps un mélange de choses qui vont ensemble. Je ne peux pas dire que c'est une chose, mais c'est certain que si les sénateurs veulent faire les séries éliminatoires, ils n'ont pas le choix d'augmenter leur taux d'efficacité en désavantage numérique. Est-ce que c'est en gardant le même système ou en changeant les effectifs qui tuent les punitions ou en modifiant? Je pense que c'est un peu de tout et trouver la recette gagnante.
As-tu regardé le match hier?
J'ai regardé, écoute, je suis allé voir les Olympiques. Je vais être franc.
Ah, oh, ben maudine!
C'est bon. Puis j'ai vu les faits saillants de la victoire.
Après avoir vu ça, je te dis rien là, de ce que j'ai retenu, mais toi, ton constat, tu retiens quoi? Est-ce que c'est une équipe qui a joué solidement, selon toi?
Une victoire, c'est une victoire, OK? Et puis, quelques gros canons sont allés chercher des buts encore. Debrincat, Kachuk, Sanderson, il y a deux passes. Ça t'en prend d'une même. Il faut que tu battes les équipes qui sont, je vais dire, entre guillemets, égales ou moins fortes que toi. Est-ce que c'était convaincant? Aucunement. Il y a des choses à continuer à travailler, mais on a quand même gagné un match contre une équipe de division, plus ou moins, et puis t'as pas Chabot et t'as pas Zoub. Donc ça se prend bien, mais c'était loin d'un match parfait.
Loin d'un match parfait. Puis ce que j'ai peur, c'est que si on répète le même niveau d'intensité de ce qu'on a joué hier contre les Devils, ça pourrait être un long après-midi pour l'équipe locale.
Les Devils, ça va vite. Écoute, ils ont la recette en ce moment, puis c'est pas tous des noms que tout le monde connaisse, là, mais je serais curieux de voir c'est qui l'équipe qui est plus rapide qu'eux dans la Ligue nationale en ce moment.
Oui, ça va vite.
Et puis ça s'impose dans tout leur système offensif, défensif, c'est la vitesse. Alors, on regarde la défensive des Sens en ce moment, comment est-ce qu'on va être capable de contrer ça? Est-ce qu'on utilise des échecs un peu plus passifs? On garde l'autre équipe devant nous? Est-ce qu'on dégage la rondelle un peu plus? Question de limiter les revirements dans notre territoire. À suivre, j'ai hâte de voir.
À suivre, oui. Puis à suivre, évidemment, les GGs demain et en fin de semaine, deux fois plus tôt qu'une, contre Queens, mais tout d'abord RMC. Vous avez perdu dans le dernier match, d'ailleurs, donc un esprit de vengeance pour vous autres?
Oui, 100%. C'est une équipe là, qui il faut les battre. C'est une équipe de bas de classement, mais qui compétitionne aussi fort que n'importe quelle équipe. C'est pas une équipe qui vend du talent sur chaque trio. Quelques joueurs qui sont capables, mais si tu te présentes pas avec une éthique de travail, une exécution, ils vont te reprendre. Puis ils ont surpris plusieurs équipes déjà cette année. Là, nous, Carlton, Concordia, donc il ne faut pas se faire surprendre encore demain.
On ne doute pas que l'effort sera déployé. Vous pouvez visionner ce match-là demain sur TV Rogers, Max Jolicoeur, également notre ami Mick Lafleur. Et je vous annonce une première, mesdames, messieurs, comme analyste, Richard Junior Leduc sera là. Alors, un retour et un début pour lui. Alors, Pat, je te dis bonne fin de semaine. Deux victoires pour vous autres. On se dit à jeudi prochain.
Yes, sir. On va te voir demain.
Salut. Pat Grand-Maître, mesdames, messieurs. Puis, ben là, vous l'avez connu. Hein? On a parlé de Richard Leduc. Eh bien, va devenir analyste pour nous autres sur TV Rogers. Puis, très content à part de ça. Quelle prise. Quelle prise. On s'en va une pause? On s'en va une pause. Il dit, ben oui! Joues-tu un instrument, toi?
Non.
Mais
jouer la guitare.
À te voir aller la tête comme ça, t'as l'air d'un headbanger. Tu sais, un headbanger, fait tout pousser les cheveux un peu, là. Faire le look.
La coupe longueuil.
Yes, sir! Je l'avais d'ailleurs à un moment donné. On s'en va une pause au retour. On vous revient, puis on parle de boxe avec Vincent Tremblay. Merci d'être là. La célébration du sport dans la capitale, une seule adresse dans le vestiaire au 94.5 Unique FM.
Votre meilleure chance de gagner 1 million de dollars avec des probabilités de 1 sur 25 000. Voici le nouveau billet Ultimate, offert pour un temps limité chez votre détaillant de loterie locale.
Une nouvelle ère dans la capitale nationale. Une nouvelle génération de sénateurs débarque à Ottawa. Au 94.5 Unique FM.
Le hockey des sénateurs, saison 2022-2023, présentation Véronique Lecieur, courtière immobilière.
Bonjour, ici Robert Guindon, votre animateur de l'Express Country.
Je reviens de travailler.
Je vous invite à passer un agréable moment en ma compagnie et la crème du country.
L'Express Country avec Robert Guindon, le vendredi, 10h à Unique FM.
Ici Jean-Pascal et vous écoutez dans le vestiaire au 94.5 Unique FM Sport.
Content d'être là, disponible maintenant sur la balado diffusion. Lâchez-vous lousse, on a plein d'émissions maintenant. C'est un buffet de dans le vestiaire disponible pour vous. N'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Également, on a une application gratuite à part de ça. Puis, vous pouvez également nous écouter sur votre mobile. Toutes les plateformes. Let's go! On parle de boxe avec Vincent Tremblay qui nous attend. Il est en forme également. Monsieur Tremblay, mes hommages.
Salut, Nick.
J'espère que c'est pas comme chez vous. En tout cas, j'espère que... Non, chez vous, c'est pas comme à Buffalo ou qui annonce 6 pieds de neige en 20 semaines. Ça va mieux pour vous autres en Abitibi?
Ça fait 2 semaines qu'il neige à chaque jour, 3-4
fois. Vous devez être rasé à ça, ce pied, là.
Hey, j'ai même pas encore mes pneus d'hiver.
Non, tu n'aurais pas dit.
Les garages sont complets depuis... J'ai pris mon rendez-vous en août.
Ah!
Puis, c'était pour le 21 novembre, donc l'an prochain.
Mais là, j'allais dire honte à toi, t'es pas responsable, mais hey, c'est de l'achalandage, hein, monsieur? Wow! All right. Bon, ben, il y a peut-être une idée de business quelque part. On va m'ouvrir un garage en Abitibi quelque part. Emmenez-en des projets. Un projet pour Canelo et lui pour 2023 comme objectif de remonter dans le ring mais de prendre son combat revanche contre Bivol. Bonne chose ou une mauvaise chose pour Canelo?
Ben, pour lui, c'est une bonne chose, mais est-ce qu'il le mérite vraiment? Ça, c'est l'autre question parce que il a perdu par décision unanime.
Y a-tu été dominé?
Il a été dominé. Il a été dominé. C'est un défi qui était beaucoup trop grand pour lui, même si il y a un des juges qui avait donné 115-113. Mais les trois juges, en fait, avaient donné 115-113. Avaient été complètement dominés. Dimitri Bivol était plus gros, plus rapide.
Puis là, c'est ça. Là, pour les gens qui sont pas au parfum, là, il a dû monter d'une catégorie, là. Puis,
parce que lui, il a commencé sa carrière à 147 livres. Après ça, il est allé chez les 154. chez les 160, chez les 168. Puis ce combat-là était à 175 livres.
Ouais, 175.
Bivol, les deux, ils étaient pesés à 174 et demi là, pour ce combat-là, mais c'était chez les 175 livres. Et c'est Ross and Bird, parce qu'il était dans le coin de Vasyl Lomachenko. Puis Vasyl Lomachenko, c'est un peu ça. Il a commencé chez les 135, il est monté chez les 140. Là, il avait espoir de monter chez les 147, mais il dit à un moment donné, il ne pourra plus monter. C'est un peu ce qui s'est produit avec Canelo Alvarez contre Dimitri Bivol. Il ne peut pas monter éternellement. Là. Les deux premiers, Dimitri Bivol, Arthur Beterbiev, oubliez ça. Là. Canelo, c'est beau, c'est bon. À 160, 168, pas de problème, c'est le meilleur boxeur. À 175, il y a des monstres.
Bon, ici... Si on oublie, en tout cas pour toi, Bivol, qui serait le meilleur adversaire pour le prochain combat de Canelo, selon toi?
Ben, c'est à 168. Ouais. Même si lui pense qu'il a fait le ménage, je pense pas qu'il... Il va falloir qu'il s'entête à rester chez les 168 livres. Ouais. Là. Chez les 168 livres, t'as plusieurs combats qui pourraient être intéressants. Le plus intéressant, c'est David Benavidez qui est champion, qui est un boxeur invaincu, c'est un jeune, à peine 25 ans, déjà champion, puis lui, origine mexicaine, bien évidemment. Donc, ça va être... C'est le combat que tout le monde veut voir, sinon, il n'y a pas vraiment personne chez les 168 livres qui peuvent...
pour l'instant.
Trouble, pour l'instant. Sinon, ben il faut qu'il regarde d'affronter des boxeurs qui sont à sa portée. On peut penser à un autre combat contre Callum Smith, Gilberto Ramirez, l'autre boxeur mexicain. Lui, il était champion à 168 livres, Nicolas, a décidé de monter chez les Milos. Il est classé présentement 5e, 44 victoires, une seule défaite. Donc, peut-être qu'il va viser ça. Mais contre Bivol, là, moi, personnellement, j'ai aucun intérêt. J'aimerais mieux le voir contre un Gilberto Ramirez là, au Cinco de Mayo. On fait ça, grosse fête mexicaine. Puis on remplit assurément un aréna avec deux boxeurs mexicains qui vont s'affronter.
Bon, ben à suivre en 2023. La fin de semaine dernière, il y avait un combat important pour Marie-Ève Dicker. Puis défaite contre Jonas, qui l'a dominé selon plusieurs. Ben, domination totale, on va le dire comme ça. Tu vas me dire que Marie-Ève Dicker, c'est une carrière montée de toutes pièces.
Oui, ça a été planifié par, et c'est positif. Ce que je veux amener, là, c'est que Yvon Michel l'a repéré. On a monté sa carrière. 7 de ses 8 premiers combats, c'était contre des adversaires qui n'étaient pas dans la bonne catégorie. Il y en a même une là, qui est passée de 128 livres à 154. Marie-Ève Dicker, là, quand elle a passé professionnelle, Nicolas, là, c'était pas le premier choix. C'était pas le deuxième ni le troisième. Parce que le premier choix, c'était Ariane Fortin. Elle était boxeuse de l'équipe nationale. Deuxième choix, Mary Spencer. Les deux n'ont pas... Eux, leur objectif, c'était d'aller aux Jeux olympiques. Fortin l'a fait. Mary Spencer l'a fait. Puis au moment que Dicker a choisi de passer chez les professionnels, Mary Spencer, elle enseignait à l'école. Ariane Fortin est membre sur le conseil d'administration de la Fédération de boxe. Maintenant, elle est en train de l'équipe de la Corée du Sud en boxe olympique. La troisième, Sarah Kali, son rêve, c'était les Jeux olympiques. Là, il reste Marie-Ève Dicker. Là, la boxe, à travers le monde, ça allait bien, Nicolas. Mais au Québec, on n'en avait pas. Puis au Canada aussi, il y avait seulement dans l'Ouest canadien là, qu'il y avait une Jelena Mrdjanovic qui était 8 fois championne du monde. Mais sinon, il n'y avait rien qui se passait dans l'Est du pays. Marie-Ève Dicker, comme une bonne opportuniste, dans le bon sens du terme, s'est dit, ben écoute, à 154 livres, il y a 14 filles en ce moment. Ça me prendrait 1 an, 2 ans. Je passe chez les pros, je deviens championne du monde. Les filles qu'elle a affrontées, c'est des filles qui étaient de catégorie B, C même. Puis on l'a vu contre Chris Namus. Oui, Chris Namus était bonne. Elle est devenue championne du monde contre elle. Après ça, elle a affronté deux grands-mères, là, Michaela Loren, Maria Lindbergh. Hey, au-dessus de 44 ans pour une des deux. Je veux pas être négatif, mais quand elle a affronté l'élite, Clarissa Shields, ça, c'est les filles qui s'affrontaient. Là. Les Ariane Fortin et Mary Spencer se sont affrontées 7 fois chez les amateurs. Là. Ariane Fortin, elle a battu Mary Spencer Clarissa Shields a affronté Ariane Fortin, a affronté aussi Mary Spencer. Quand ces filles-là, Ariane Fortin n'a pas décidé de passer chez les pros, mais Spencer le fait, Shields le fait. Quand Dicker les a affrontées, ça a été terminé. Elle parle bien, tu sais, pour les journalistes.
Ouais, ça passe bien.
Tu lui poses une question, Marie-Ève, là, elle te part pendant 25 minutes, là. Puis c'est des grosses déclarations, tu sais. Elle paraît bien, je veux pas dire qu'elle est pas bonne, mais on le savait que, au niveau, international, non, ça allait être peut-être un peu plus compliqué pour le jeu en fin de semaine contre Jonas. Jonas faisait partie également de l'élite, là. C'était Spencer, c'était Shields, c'était Natasha Jonas qui est allée également aux Jeux Olympiques.
Est-ce que ce résultat-là fait en sorte qu'elle a été exposée, puis là, ben...
Pas
perdre la crédibilité, mais là, c'est comme...
Nick, c'est pas mal terminé, là. Est-ce que Camille Stéphane est assise chez eux aujourd'hui puis se dit « Je veux affronter Marie-Ève Ducaire? » Non, il n'y a plus personne qui... Puis si ce combat-là a lieu, c'est clairement un combat à sens unique, puis ça va être encore plus... Parce que les coups qu'elle a lancés... Moi, ce qui me dépasse, Nicolas, c'est que ça fait 11 mois qu'elle sait qu'elle affronte Natasha Jonas. Premier round, premier coup, on sait que c'est une gauchère. La gauche, elle rentre. Je te dis, elle rentrait que si c'était Spencer qui rentrait la gauche comme ça, là, Marie-Ève Ducaire, là, elle est partie de Manchester puis elle s'en allait à Vancouver. Là. Je te le dis, là, c'était le compte de mille. Puis, moi, j'ai l'impression que c'est bel et bien terminé. Elle peut pas décider de revenir. Mais comment ça se fait qu'en 11 mois, puis elle s'entraînait avec des bonnes. Là. Tamara Thibault, qui est sur l'équipe, qui est la meilleure boxeuse à son poids en ce moment chez les amateurs dans le monde. C'est une Canadienne, vient de Shawinigan. Pendant 11 mois, se prépare avec une gauchère. Première gauche qui rentre, elle rentre comme ça. Je pense qu'elle a exposé beaucoup trop de lacunes chez Marie-Ève Ducaire, Natasha Jonas.
À suivre pour la suite des choses. Puis je suis sûr qu'à un moment donné, on va la retrouver peut-être dans les médias pour son après-carrière. Écoute, ça, c'est une chose. L'autre chose dont je voulais parler, Mayweather, une discussion intéressante. Ross Amber, sur le podcast à TVA Sports, on le questionne à savoir si Mayweather est vraiment le meilleur de tous les temps. Ton commentaire là-dessus?
Ben moi, je pense que tu peux pas comparer deux époques. C'est la même chose avec les joueurs de hockey, là. C'est de différents boxeurs, mais Mayweather est affronté. Il a fait ce que la boxe est. Il a choisi ses adversaires. C'était toujours à la limite de la légalité. Tu sais, on se souviendra plusieurs fois. Il a été brassé plusieurs reprises dans ses derniers combats. Dans son époque, moi, j'ai l'impression que c'est un des bons. C'est un des top 5, mettons, dans l'histoire de la boxe. Là. On peut pas le mettre devant Mohamed Ali. C'est pas le meilleur de tous les temps. Mais assurément, c'est un des cinq meilleurs qu'il va avoir. Parce que, oui...
Sugar Ray Leonard, là, je sais pas sa place non plus. Sugar Ray Leonard.
Il y en a beaucoup, là. Est-ce qu'on le met devant Sugar Ray Leonard? Est-ce qu'on... Roberto Duran? Thomas Hearns? Puis,
ceux que tu viens de parler, s'ils ont en commun, puis avec Mohamed Ali, là, c'était le spectacle. Puis Mayweather, plus souvent qu'à son tour, c'est d'attendre. Mais, ben, le meilleur exemple, c'est contre Pacquiao. C'est évite. Ah ouais, esquive, la défense. Puis quand c'est le temps, ben, on rentre dedans. Ça a été ça un peu la carrière de Mayweather, non?
Ah, ça a été ça, mais c'est l'art de ne pas se faire frapper.
Oh, oui, c'est ça.
Ça a été. Il a peut-être rendu un peu comme Patrick Roy avec le style papillon. Il a fait en sorte que les boxeurs d'aujourd'hui essaye de limiter pour essayer de justement développer au niveau de la technique de défense. Les esquives, on voit plusieurs boxeurs aujourd'hui qui veulent ressembler à Floyd Mayweather parce que défensivement, il n'y a personne qui le touchait. Ceux qui ont regardé le combat contre Canelo Alvarez, c'est sûr que Canelo était jeune à cette époque, mais il se fait pas toucher. Il lance des coups. Tout le monde voulait le voir. C'est aussi l'impact qu'il aura eu. C'est au niveau des ventes de pay-per-view, ça a été complètement fou. Seul point, le combat contre Pacquiao est arrivé beaucoup trop tard, à mon avis. Si tu compares la situation avec Sugar Ray Leonard, Il y a un documentaire sur Crave, ça s'appelle The Kings.
Oui, je l'ai vu, ça. Oh, c'est beautiful.
Sur l'histoire, ça, c'est tellement bien fait. Là, on invite les gens là, à aller l'écouter. C'est sur les 160 livres à l'époque. Roberto Duran, Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns, il y a Marvin Hagler également. C'est les quatre.
Duran qui était le bad boy de la gang.
Oui. Il s'affrontait tout le temps, hein, Nick. C'est ça qu'on doit remarquer. Là. Hearns, Duran, Sugar Ray Leonard, Hagler, ça s'affrontait tout le temps. On se défiait, on voulait s'affronter, même que Duran, Sugar Ray Leonard, ça a été présenté au stade olympique.
Oui.
Il y avait eu plusieurs personnes.
1980.
Duran qui était rentré dans la tête de Sugar Ray Leonard en parlant de la conjointe de
Duran Rose. Avec son no mass.
Ah ouais, il était plus capable, honnêtement. Ah ouais. Mais faut placer Mayweather dans les grands, mais au niveau de... J'aime ça quand un boxeur décide qu'il affronte les meilleurs, qu'il veut toujours...
Ouais, un gars qui se cache pas.
Tu sais, Tyson Fury, là, il se cache pas, lui. Il y veut tout. Il voyait M. Wilder, il était là, je veux l'affronter, je veux le battre. Il a réussi à le battre, il a affronté. Tout le monde pensait que Klitschko allait défoncer, là, excuse-moi le terme, là, mais détruire complètement Tyson Fury, c'est pas arrivé. Mais assurément qu'il y a une place. Il y a une place dans l'élite, dans les meilleurs au monde de Floyd Mayweather, sans hésitation. Mais hey, il y en a beaucoup, hein, c'est des gros souvenirs. Là, les combats. Là.
Il y a une chose qui est sûre, c'est probablement le meilleur pour faire du cash, parce que lui, le cash... Les Huskies de Rouyn-Noranda, ça va bien pour vous autres?
Ça va bien. Hein? J'ai été surpris de voir comment l'équipe va autant bien. Il y a l'entraîneur-chef Brad Gatlin qui est de retour du défi mondial des moins de 17 avec Bill Zonon, la meilleure recrue des Huskies, puis une des meilleures recrues cette année dans la Ligue. Là, mais c'est surprenant. Il était hier à un point des Olympiques de Gatineau qui, ça semble s'être replacé avec Kirkwood. Ben, honnêtement, Nick, la dernière fois que tu m'as demandé de te parler de Marcel, là, j'ai eu mal. Il a défoncé un joueur des Huskies la semaine passée. Ah, ouais. Il est gros. Essaye pas de le déplacer. Je pense qu'il est listé à 240.
C'est de la viande.
Ça frappe. Mais non, les Huskies sont surprenants. Tu sais-tu qu'est-ce qui m'a surpris cette semaine?
Quoi?
Le congédiement de Steve Hartley.
Oui, ben, je pense que tout le monde a été pris par surprise là-dessus. Là.
C'était une victoire d'égaler Mario Duhamel. Hein.
Puis,
153 victoires. C'était une victoire d'égaler le plus grand entraîneur de l'histoire des voltigeurs en termes de victoires. Mario Duhamel est à 154. Wow. Lui est à 153. Plusieurs personnes ne comprennent pas parce que Justin Côté n'est pas là. Maverick Lamoureux, les deux.
Puis une fiche de 10-6.
Son meilleur jeu n'est pas là.
Une fiche de 19 à ce moment-là, au moment du congédiement. Là.
C'est surtout en plus que tes deux meilleurs éléments sont pas là. C'est un peu la même, sans faire l'analogie, là, mais c'est un peu le même scénario avec les Olympiques de Gatineau. Nadeau n'est pas là. Antonin Véraud n'est pas là. Puis il manque quelques éléments également qui sont toujours. On a toujours des blessés.
Béliveau n'est pas là.
On est malchanceux, là.
On s'en parlera, mais chose certaine, c'est le lot des équipes. Hein. Faut passer au travers, même contre vents et marées. On se voit cesser là-dessus, mais c'est tellement bon, tabarnouche. J'espère que les gens vont prendre le temps d'aller réécouter ça. C'est une des meilleures. Toujours des meilleures. Vincent Tremblay, de Bass.
Merci beaucoup, Nick.
Y a-tu des nouvelles sur le. C'est quoi le site
Boxing Town Québec.ca. On fait toujours souvent des avant-matchs. On a un balado également où on jase de boxe. Donc,
allez-y.
On invite les gens à aller nous syntoniser.
Puis toi, je t'invite à revenir la semaine prochaine. Salut, mon ami. Bon week-end.
Salut.
Vincent Tremblay, mesdames, messieurs. Et pour nous, ça met un terme à l'émission. Diantre que ça passe vite quand t'as du plaisir. J'espère que ce fut la même chose pour vous. On va se dire à samedi, parce qu'on a un match au hockey Véronique Lecoeur des Sénateurs. Entre-temps, demain, il ne faut pas oublier l'émission des meilleurs moments du vestiaire. Mick Lafleur vous accompagne. On va vous repasser ce qu'on a retenu au cours de la semaine. Puis il y a la brigade également des 17h. Pas manqué non plus. Grosse fin de semaine avec de la musique country. Ça, c'est le fun dans nos oreilles à part de ça. J'adore. Robert Guindon, je dis how are you et bonne journée demain. Merci à Mick Lafleur. Merci à tous nos invités aujourd'hui. Renaud Lavoie, Jacques Martin, Marc Schreiber, Patrick Grandmaître, Vincent Tremblay, les GGs, hommes, hockey, demain. Faut pas manquer ça contre Ontario Tech. Go Packers, go! À samedi.